Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, c'est une réalité, nous sommes actuellement 7 milliards d'êtres humains et nous serons certainement 9 milliards à l'horizon 2050. Et pour nourrir convenablement la population mondiale, il va falloir trouver très vite des solutions. Nous l'avions vu dans une précédente émission en compagnie de Michel Griffon et Henri Léridon, émission d'ailleurs que vous trouverez sur le site de Canal Académie, les surfaces cultivables arrivent à saturation et il faudra très certainement déboiser pour cultiver et les sols surexploités par ailleurs risquent de s'épuiser. Bref, justement, c'est sur les sols que porte aujourd'hui notre émission au fil des pages, des sols qui sont soumis à rude épreuve et dont le résultat est parfois la désertification. Vous connaissez certainement l'avancée des déserts, une des causes de la désertification, mais l'industrialisation, l'irrigation, le surpâturage ou encore la salinisation des sols sont autant de facteurs de stérilisation et de désertification. Ce phénomène qui s'étend représente une des catastrophes naturelles à long terme et pour vous donner une idée, l'UNESCO estime qu'un tiers des surfaces émergées de la planète seraient menacées par ce phénomène. Notre invité, Jacques Arignon, a publié aux éditions de l'Harmattan « Lutter contre la désertification, l'espoir agro-écologique » et nous allons voir ensemble comment limiter l'expansion de cette désertification. Jacques Arignon, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes agronome et forestier, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et membre de l'Académie d'agriculture. Pour commencer, je vais démarrer par une phrase en préface, donc préface réalisée par Luc Guyot, président actuel de la FAO, qui écrit « Produire plus et mieux en respectant la capacité de renouvellement de nos ressources alimentaires et en tenant compte des évolutions climatiques ». Jacques Arignon, est-ce possible et réaliste ?
C'est, à mon avis, possible et réaliste. Toutefois, je m'attarderai sur un terme de votre propos liminaire. Je ne pense pas qu'il faille détruire de la forêt pour regagner des terres cultivables. Je pense qu'on peut les reconquérir sur des territoires qui sont actuellement dégradés. Et c'est ainsi que je vois donc produire davantage et produire mieux, à condition de bien connaître les milieux auxquels on va s'appliquer et à condition d'être extrêmement vigilant sur les procédures à employer pour produire davantage, je m'explique, n'est-ce pas, en ce qui concerne les apports fertilisants et les protecteurs phytosanitaires.
Donc, vous ne partagez pas l'avis de Michel Griffon et d'Henri Léridon qui, eux, dans leur rapport conjoint avec l'Académie des sciences et l'Académie d'agriculture, montrent qu'il y aura peut-être un risque, qui est déjà le cas actuellement, de déboisement de forêts. Pour vous, ce n'est pas envisageable?
Ce n'est pas envisageable et je crains fort les effets de l'actuel déboisement de l'Amazonie pour produire des milliers, si ce ne sont pas des centaines de milliers de tonnes de soja. On pourrait peut-être s'adresser à d'autres territoires que le territoire forestier de l'Amazonie pour trouver ces ressources-là.
Et alors on va y venir dans quelques instants. Auparavant, j'ai beaucoup prononcé le mot désertification. Quand même, une définition s'impose, Jacques Arignon, pour ne pas confondre aridification, sécheresse et désertification.
Oui, alors là, j'avais commencé dans mon avant-propos du livre que vous avez cité, dont on parle actuellement, par donner des définitions. Je vais peut-être les reprendre, n'est-ce pas ? Le désert désigne une zone stérile ou peu propice à la vie, au sol impropre, avec des faiblesses de précipitations drastiques. L'aridité reflète une pénurie pluviométrique permanente, mais elle est aussi liée à d'autres données climatiques spécifiques, telles que un ensoleillement fort, des températures élevées, une faible humidité de l'air, et une évapotranspiration importante. L'évapotranspiration, c'est ce qui concerne la capacité des plantes, n'est-ce pas, à évacuer leur vapeur d'eau vers l'atmosphère. Quant à la sécheresse, elle résulte d'une défaillance pluviométrique qui, elle, n'est pas permanente, elle est temporaire, alors que le volume des précipitations peut s'avérer suffisant. On a parlé dernièrement, je crois même que c'était hier, de la sécheresse qui va sévir en Bretagne, alors que la Bretagne a une pluviométrie qui est relativement importante. Quant à la désertification, bien c'est, et je cite là, c'est la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides, sèches, par suite de divers facteurs parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Ça, c'est la définition de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Alors, une désertification qui concerne aujourd'hui quelle surface, quel territoire ? J'imagine que ça parle en premier à l'Afrique, mais peut-être l'Asie aussi, et pourquoi pas aussi une partie de l'Europe ?
La désertification, en 1977, touchait 44% de la surface continentale du globe. En 2000, elle touchait 63%. Je n'ai pas les chiffres actuels. Ça, c'était des chiffres qui avaient été communiqués par l'IRAT.
L'IRAT, qui est ?
L'IRAT, c'est l'Institut de recherche d'agronomie tropicale.
Donc 63% des terres dans le monde qui sont aujourd'hui impropres à la culture.
Au moins, puisque ce sont des chiffres de 2000. Et en Chine, c'est 2500 km² qui se désertifient chaque année. Alors, vous avez raison, n'est-ce pas ? Ça touche les continents d'une façon très différente. Pour l'Afrique, ce que je vais donner, ce sont les chiffres du CIRAD de 2000. Toujours, n'est-ce pas, c'est 37%. En Asie, c'est 33%. En Australie, c'est 14%. On considère que le sixième de la population mondiale est touché par la désertification. Vous savez, les chiffres sont ce qu'ils sont. Ils sont issus de statistiques. Faire des statistiques dans les conditions comme ça, c'est toujours très difficile. On parle de 900 millions de personnes qui seraient touchées par la désertification dans 90 pays.
On a bien compris que c'est un phénomène de grande ampleur qui se développe, puisque vous dites avec un territoire de 2500 km² chaque année en Chine, qui est donc une conséquence de la désertification, qui sont donc la désertification. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est la main de l'homme ou est-ce que ce sont... Alors vous me direz peut-être que c'est la main de l'homme toujours, directement ou indirectement. On parlait beaucoup pendant un temps de ces déplacements de déserts, désert de Gobi par exemple. Est-ce que ce désert est un phénomène généralisé ou est-ce qu'il y a aussi la main de l'homme qui intervient dans la désertification ?
Alors tout dépend si on raisonne sur désert plurimillénaire ou si on raisonne sur 100 ans. C'est certain que l'apparition du Sahara, le Sahara n'a pas toujours été un désert, n'est-ce pas ? Les recherches qui ont été faites, paléo-historiques, le montrent bien. Pour le désert de Gobi, je sais beaucoup moins encore que Théard de Chardin a beaucoup travaillé sur ce désert. Par conséquent, nous avons eu des phénomènes climatiques très anciens qui ont converti des zones fertiles en désert. En revanche, depuis quand même plusieurs centaines d'années, ça va plus loin que 100 ans, la main de l'homme s'est alourdie. Ça tient au fait que démographiquement, nous sommes beaucoup plus nombreux sur Terre, nos besoins se sont accrus. Nos fantaisies aussi, je crois qu'il faut parler de nos fantaisies. Il y a les besoins et il y a les fantaisies.
C'est quoi les fantaisies ?
Les fantaisies, c'est par exemple préférer telle alimentation plutôt que telle autre. Il y a des modes comme cela. Et ce sont des modes qui peuvent être lourdes de conséquences, pas dans les productions qui sont nécessaires à l'ensemble.
Vous faites référence à la viande, par exemple ?
Par exemple, oui, je prends de la viande. Il est certain qu'il y a tout de même un engouement, en tout cas, chez les populations boréales tempérées, et australes tempérées aussi, qui conditionnent l'exploitation des terres, la constitution de pâturages là, ou d'autres productions seraient peut-être plus intéressantes.
En même temps, vous ne pouvez pas dire à une population qui est, dans certains cas, déjà à la limite de la famine, de moins consommer et de consommer moins de viande.
Vous avez raison, il est certain que dans certaines régions, je parle de l'Afrique que je connais mieux, on ne peut pas interdire aux gens de manger de la viande, alors que dans la zone sahélienne, c'est pratiquement la seule alimentation à laquelle ils puissent s'adresser. C'est vrai, ça.
Alors, comme cause de la désertification, il y a le surpâturage, par exemple, mais il y a également l'irrigation. Alors, c'est un thème sur lequel j'aimerais qu'on reste quelques instants, sur le thème de la gestion de l'eau. On a consacré plusieurs émissions ici à Canal Academy sur la gestion de l'eau, mais quand même, restons quelques instants dessus. En quoi l'irrigation peut-elle provoquer la désertification, Jacques Arignon ?
Alors, l'irrigation, si c'est une irrigation, je ne veux pas dire confidentielle, mais très, très raisonnable, n'entraîne pas la désertification. Si c'est une irrigation qui, pour 50% de l'eau utilisée, est évaporée, c'est un peu le cas, par exemple, de l'irrigation par aspersion du maïs. Je prends le cas du maïs parce que on le voit tous les ans, eh bien, il est évident que c'est une irrigation qui coûte cher à la ressource générale. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup étendu sur des irrigations un peu confidentielles. Si on prend par exemple le système de notre confrère Jacques Gast, qui consiste à enterrer une sorte de poche percée de petits trous dans laquelle on verse 2 litres d'eau 2 fois par semaine et qui arrive à faire pousser sans problème particulier un plant de manguier, au point que désormais les manguiers sont si nombreux grâce à lui au Sénégal qu'on a construit des usines de jus de fruits et de confiture de mangue. Eh bien, il est évident que là, on a affaire à un système d'irrigation économe et qu'il faut encourager.
Donc ça, c'est pour l'irrigation. Et puis, il y a aussi, donc, on pourrait beaucoup s'étendre hein, sur la gestion de l'eau, mais encore une fois, j'invite nos auditeurs à se rendre sur les émissions consacrées à ce thème. Et il y a un point quand même qui demeure très important dans votre ouvrage, c'est la question de la salinisation des sols. Qui dit salinisation dit stérilisation. C'est un phénomène aussi en expansion, Jacques Arignaud.
Oui, parce que je m'en suis rendu compte en Australie. Parce que c'est un phénomène en Australie qui touche beaucoup de terres, qui arrive à les saler. Alors les gens peuvent se dire, mais pour quelle raison on fait un forage, on trouve de l'eau douce, et pour quelle raison est-ce que ça salerait les terres? C'est très simple. L'eau, en remontant, traverse des couches salées et restitue en surface eh bien, des eaux qui ne sont plus douces, mais qui sont déjà saumâtres. Et vous avez donc une stérilisation des sols à partir de cela. C'est à rapprocher des effets de la tempête Xynthia sur le littoral atlantique en Vendée, où les polders de la baie de l'Aiguillon ont été submergés par de l'eau salée. Il y a eu une salinisation, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des remèdes. Il y a des remèdes, et alors on poussait des cris épouvantables en disant que ce sont des terres qui vont être stérilisées pour des années et des années. Mais il suffit de l'application, par exemple, de gypse pour arriver à dessaler ces eaux assez rapidement. Actuellement, il y a des cultures qui se trouvent sur les polders de la baie de l'Aiguillon.
Donc, la salinisation des sols n'est pas irréversible?
Elle n'est pas irréversible. Alors, évidemment, c'est une question d'échelle. Il est certain que quand vous avez une salinisation, je prends le cas, par exemple, de la mer d'Aral, qui a duré pendant des années et des années, vous avez une couche, une croûte de sel qui est tellement importante qu'il faudrait qu'elle soit lavée par des précipitations très importantes de type équatorial et pendant des années pour qu'elle puisse disparaître. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, on se trouve dans les zones sèches.
Alors, dans votre ouvrage, le titre est intitulé donc « Lutter contre la désertification », mais le sous-titre, c'est « L'espoir agroécologique ». Alors, je suis désolée, je vous demande une deuxième définition. En quoi consiste l'espoir agroécologique? Que signifie agroécologique, Jacques Arignon?
Alors, l'espoir agroécologique, alors l'agroécologie, qui est un terme relativement récent, consiste à pratiquer des processus agronomiques de production qui ne fassent appel qu'à des intrants, à des apports naturels, par exemple de fumier, d'engrais typiquement organiques, en faisant abstraction de produits chimiques dont on ne connaît pas toujours la composition lorsqu'on les emploie. Il y a quelques années, parlant des apports de produits chimiques dans les eaux douces, je disais qu'on était toujours en retard d'une guerre dans l'approche de leur composition. C'est vrai, on connaît la composition généralement plusieurs années après l'emploi et on ne peut combattre les effets de cette pollution par phytosanitaire. Je ne veux pas dire quand c'est trop tard, mais pas loin quand même. Par conséquent, l'agroécologie consiste à abandonner ce type d'emploi de fertilisants pour aboutir à des moyens qui sont beaucoup plus naturels.
Vous voulez dire qu'en fait, actuellement, que ce soit donc les pays d'Afrique, mais aussi nous, la France, pays du Nord, on pourrait travailler sur des cultures qui n'utiliseraient pas les produits phytosanitaires, mais plutôt des produits naturels que sont le fumier avec l'azote, j'imagine.
Ah, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé quand on parle, vous savez, et souvent on s'en gargarise d'ailleurs, de produits bio. Eh bien, ça veut dire que ce sont des produits qui proviennent d'une agroécologie.
Mais le rendement n'est pas le même. Ça pose la question du rendement. Comment
le rendement
nourrir la population avec que du bio?
Vous avez bien raison, le rendement n'est pas le même. Ce qui fait qu'il y a encore à travailler beaucoup pour aboutir, d'une part, à la mise en place de cultures sur des terrains qui, pour le moment, ne sont pas encore utilisés. Et avec ces méthodes-là, et là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une recherche de terrains qui se fait une mise en valeur de terrain, même à proximité, voire même en ville, et une production de produits de qualité dont les métaux lourds sont absents.
Alors, je reviens à la charge, pardon Jacques Arignon, mais effectivement, au tout début d'émission, vous disiez qu'elle n'était pas forcément indispensable, même pas du tout indispensable, de déboiser une partie des forêts dans le monde. Et parallèlement, vous nous dites que par ce système d'agroécologie, effectivement, on n'arrive pas au rendement qu'on a actuellement. Donc, comment vous allez, pour nourrir la population mondiale, conserver des forêts et avoir un système, pour parler vite, un système bio ?
Oui, alors je crois qu'il ne faut pas se fixer sur les forêts, parce que les forêts, d'abord, il y a un certain nombre de types de forêts très différents. Il y a des forêts de production exclusive de bois, mais dans les pays du Sahel, par exemple, vous avez des forêts sous lesquelles on peut faire pâturer des animaux, sous lesquelles on peut produire des légumes, et qui fournissent des graines qui sont intéressantes pour les animaux, des feuillages intéressants, même avec des acacias épineux pour les chèvres. Et là, je pense qu'on a intérêt à propager donc ce type de reboisement avec une agriculture qui lui est subordonnée. C'est le cas au Maroc. Au Maroc, on s'aperçoit que la propagation des peuplements d'arganiers, vous savez, l'arganier est un arbre qui donne des petites noix, qui est vraiment peu exigeant, que ce soit en fertilisant ou peu exigeant en eau, et ces noix entrent dans la production d'huiles essentielles qui sont employées en parfumerie, voire même en pharmacie. L'extension de ce type de reboisement est intéressante, de même que celui au Sénégal, mais c'est déjà très bien engagé et très soutenu par la FAO, de l'acacia gommier, qui fournit donc de la gomme, qui est très recherché, qui coûte cher d'ailleurs, et c'est une base de l'économie, la partie sahélienne du Sénégal.
Alors la transition est toute trouvée, puisqu'effectivement vous parlez de forêts sous lesquelles on pourrait cultiver d'autres produits. Vous parlez dans votre ouvrage « Lutter contre la désertification » publié aux éditions de l'Harmattan, de culture et d'élevage associés. Alors vous nous donnez quelques exemples qui sont assez intéressants. L'exemple de rizipisciculture, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Oui, alors la rizipisciculture, on a commencé à s'y intéresser, principalement à Madagascar. Pour quelle raison ? C'est que les Malgaches sont des riziculteurs assez extraordinaires. Et également, sont des amateurs de poissons. On pourrait dire la même chose, effectivement, des pays du sud-est asiatique. Mais à Madagascar, on a commencé à étudier l'introduction de poissons dans des rizières un petit peu aménagées, avec des fossés tout autour des diguettes, de façon à ce que les poissons puissent quand même circuler facilement. Les poissons débarrassent les tiges de riz, je parle des carpes surtout, de tous les petits animaux, les mousses, tout ça qui les garnissent, s'en nourrissent. Les fientes des poissons enrichissent le sol, ce qui fait que le riz s'en trouve favorisé. Et au lieu d'avoir par exemple des productions de riz de 4 tonnes à l'hectare, avec des poissons, on arrive à 6 tonnes à l'hectare, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on multiplie par 50%.
Et sans produits phytosanitaires alors ?
Ah non, pas de produits phytosanitaires.
Parce que c'est la question qui peut se poser. Si vous faites cohabiter les poissons avec du riz, il y a un moment donné, il ne faut pas utiliser d'insecticides.
Non, non, il n'en est pas question.
Et donc, c'est quelque chose qui pourrait se développer ou qui reste quand même à petite échelle, ce système de
rizipisciculture ? Ça se développe. Moi, je reçois des petits journaux de pisciculteurs malgaches, notamment, qui sont diffusés par une association qui fonctionne très bien, qui est l'Association pour le développement de la pisciculture en Afrique, l'ABDRA. Et qui montre que désormais, c'est entré dans la vie courante. Il y a des espèces de coopératives qui sont créées, qui fournissent des alevins de carpes. Tout ça, ça fonctionne tout seul. L'administration n'a pas à s'en occuper.
Il y a un autre exemple qui est cité dans votre ouvrage, c'est l'association Port-Poisson. Alors là aussi, j'aimerais que vous en parliez. Ça semble plus surprenant que la rizipisciculture.
Alors, c'est plus surprenant parce que ça touche une population beaucoup plus limitée. Il n'y a pas question de faire ça en pays islamique, par exemple. Mais disons que dans des pays qui sont dont les coutumes admettent tout à fait l'élevage et la consommation du porc, l'installation de porcheries, là, je reviens un petit peu sur Madagascar, ça continue à se faire véritablement bien. Sur d'autres pays où ça a été amorcé, plus ou moins abandonné, parce qu'il faut un suivi quand même technique, zootechnique, beaucoup plus important que pour le poisson. Le porc, c'est tout de même un animal important qui demande des soins, qui peut être parasité. Il suffit d'installer une porcherie au-dessus. C'est pareil pour la volaille d'ailleurs, un parquet au-dessus d'un étang de poissons qui est enrichi par les déjections.
Donc vous avez des pores hors sol qui alimentent les poissons en bas. Et là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être développé à grande échelle ou qui reste quand même...
Alors, il y a des pays où c'est développé à grande échelle. Bon, c'est essentiellement Madagascar hein, qui s'y met. Je pense que dans les pays, mais je n'ai pas de documents là-dessus, du sud-est asiatique, c'est également le cas, avec des espèces de porcs qui sont assez différentes d'ailleurs.
Après, pour vendre son poisson nourri à partir de déjections de porcs, je ne sais pas si c'est très vendeur, mais c'est quand même une possibilité.
Oui, les gens ne se posent pas, enfin d'après ce que j'en ai vu, bon, je suis allé à Madagascar, c'était en 98, où bon, j'ai vu cela, hein, bon, les gens ne se préoccupent pas trop de la provenance des poissons, ça ne les inquiète absolument pas. L'essentiel pour eux, c'est d'en avoir qui mesure la taille qui est demandée, il y a des exigences là aussi, mais non, la provenance, enfin moi ne m'a pas eu l'air de les préoccuper.
D'accord. Alors, on arrive au terme de notre émission. J'aurais encore pas mal de questions à vous poser, mais je ne vais vous en poser plus que deux. J'imagine que la FAO, puisque Luc Guyot, président de la FAO, a préfacé votre ouvrage, s'est saisi de ce double problème de désertification des sols et de l'optimisation des ressources agricoles. Qu'en est-il aujourd'hui ?
C'est une préoccupation constante de la FAO. La FAO, d'ailleurs, un site web qui est consacré à la désertification, qui est supporté par une agence italienne, financée d'ailleurs par une agence italienne, qui répond à toutes les questions qui peuvent être posées sur, pas seulement des informations sur les dangers de la désertification, mais également sur les moyens de la combattre. Par conséquent, là, je trouve que c'est une très bonne opération. Par ailleurs, la FAO lance des projets, qui sont des projets, j'allais dire, territoriaux. Un projet a concerné, concerne toujours d'ailleurs, le Sénégal, en ce qui concerne donc ces reboisements dont j'ai parlé tout à l'heure. Le problème étant que la FAO lance les projets, peut les encadrer avec ses experts, mais en ce qui concerne le financement, il faut que ce soit des financements extérieurs. Généralement, c'est le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, qui finance les projets les plus intéressants. Ça peut être également le PNUE, qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement, ou la Banque mondiale, ou un certain nombre d'autres organismes financiers qui s'emparent des projets, qui les décortiquent et puis qui les financent s'ils trouvent qu'ils sont intéressants. La FAO là, joue un très grand rôle parce qu'elle a un degré d'expertise extrêmement important.
Jacques Arignon, dernière question en quelques mots. Et j'imagine que cette question de désertification, d'appauvrissement des sols est une question locale, bien sûr, mais qu'elle porte aussi à conséquences pour... la population mondiale et pour les pays du Nord notamment. J'imagine qu'il doit y avoir un impact beaucoup plus généralisé que pour la population locale actuellement concernée.
Ça c'est vrai parce que d'une part vous avez une désertification dans les pays de la zone tempérée. On peut se dire mais pourquoi ? Vous avez une stérilisation des sols les plus productifs par l'urbanisation. Je prends le cas de la Picardie. Toutes les grandes cités picardes se trouvent actuellement développés sur des zones à blé, à pommes de terre et à betteraves. Alors, double conséquence, une grande occupation des sols qui ne sont plus productifs et une zone de ruissellement polluant très importante, puisque sur les zones qui sont essentiellement bitumées ou qui sont des toitures, eh bien, vous avez la fixation de produits polluants, notamment de métaux lourds, avec un entraînement vers les cours d'eau. Alors ça, c'est un point certain. La deuxième conséquence, qui est une conséquence plutôt agroéconomique, c'est le déplacement des productions. On s'aperçoit maintenant qu'en France et en Espagne, on cultive plutôt du sorgho, qui est une culture essentiellement africaine. Et là, on vient, j'allais dire, marcher sur les plates-bandes de ces pauvres agriculteurs africains parce qu'on produit à moins cher des éléments qu'ils nous vendaient jusqu'à maintenant.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Arignon. On va terminer ici. On pourrait encore parler pendant de nombreuses minutes, pour pas dire heures, des problèmes de la désertification. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Lutter contre la désertification, l'espoir agroécologique », une publication de 2011 aux éditions de l'Harmattan. Merci, Jacques Arignon, et j'indique à nos éditeurs que l'on retrouve votre livre sur le site de Kennel Academy en partenariat avec Amazon. Merci à vous.
Merci, madame.